L'Europe ne se fera pas d'un coup.
Ce n'est pas contre une nation quelconque que nous nous rassemblons.
On peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien.
France Culture.
L'Europe marche à nouveau sur deux jambes.
Les termes du débat européen.
Le débat, il n'est pas entre moins d'Europe et plus d'Europe.
Le débat sur l'avenir de l'Europe a ainsi été relancé.
Ce sera une autre manière de découvrir l'Europe.
Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat européen, une émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui dans un pays d'Europe. À l'ordre du jour ce soir, extrême droite et Allemagne. En juin prochain, outre les élections européennes, les Allemands iront voter dans 6 Länder pour leur maire et conseiller d'arrondissement. Une occasion supplémentaire pour le second parti du pays, l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, de gagner des voix hors des régions de l'Est où il a montré depuis sa création tout son pouvoir. Pourtant, depuis la révélation d'une réunion secrète du parti autour de la question de la remigration, des manifestations régulières rassemblent celles et ceux qui veulent freiner cette progression électorale de l'AfD. Et les révélations récentes des autorités tchèques sur les sommes que le second de la liste de l'AfD aux élections européennes aurait touchées de la part d'un média pro-russe ont abîmé un peu l'image de l'AfD, tandis que son potentiel électoral peut être entamé de son côté par le nouveau parti de Sarah Wagenknecht, venu de l'extrême droite, mais lui aussi parti de l'extrême gauche, pardon, mais lui aussi parti anti-immigration.
Certains médias allemands ont dit que nous avions parlé d'expulser des citoyens allemands. C'est totalement absurde. Nous ne sommes pas contre l'immigration ou contre les étrangers, c'est ridicule. Tout ce que nous voulons, c'est réglementer l'immigration et qu'elle soit utile à notre pays. Des gens ont comparé cette réunion à un rassemblement nazi. C'est une comparaison odieuse qui se moque de la mémoire des victimes du nazisme et ça ne représente en rien nos valeurs.
Vous venez d'entendre Tim Krause, un représentant de l'AfD, qui s'exprimait dans un reportage de l'émission En Société diffusée sur la chaîne France 5. Nous sommes en compagnie de Cécile Lecomte. Bonsoir Cécile Lecomte.
Bonsoir.
Vous êtes politiste, professeur des universités à Sciences Po Lille et chercheuse au CERAPS. Et avec nous également Klaas Peter Sick. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien à Berlin et chercheur associé au centre Marc Bloch. Est-ce que c'est nouveau, justement? On a l'impression, lorsqu'on regarde depuis la France, mais depuis d'autres pays, ce qui se passe en Allemagne, qu'il y a un phénomène nouveau avec cette AfD, cette Alternative pour l'Allemagne, née en 2013, il faut le rappeler, donc qui n'a que 11 ans, et qui maintenant est le deuxième parti d'Allemagne. Est-ce que c'est nouveau, ou est-ce que ça n'est pas si nouveau que cela, d'avoir une extrême droite importante, Klaas Peter Sick?
C'est à la fois, je dirais, vrai et faux, dans la mesure où c'est vrai que depuis 2013, nous avons un parti d'extrême droite qui figure au Bundestag, au Parlement allemand, mais il y a eu divers partis d'extrême droite, depuis la fondation même de la RFA, qui ont été représentés, non pas au Bundestag, mais dans des différents parlements des régionaux. Différents Länder régionaux, dans ces États fédéraux de l'Allemagne, et tout particulièrement dans les années 60 et 70, le NPD, le National-Demokratische Partei Deutschlands, qui a été présent dans 7 parlements des Länder, dont surtout le Baden-Württemberg, où il a eu 10% à peu près dans le contexte d'une grande coalition déjà, donc où la droite et la gauche au centre ont gouverné ensemble et où automatiquement les extrêmes sont renforcés. Et après, il y a eu un parti qu'on appelle les Républicains, des Républicains, sans blague, qui a été important surtout en Bavière dans les années 80. Mais
dont les responsables étaient assez proches à l'époque du Front National de Jean-Marie Le Pen à une époque.
En effet. Il a eu 7% hein, lors des élections européennes, déjà, des élections européennes qui aident à pénétrer l'extrême droite dans une représentation parlementaire. Et ensuite, il y a eu un parti qui a eu du succès aussi dans le Saxe-Anhalt d'un éditeur d'extrême droite connu, toujours une vieille force à l'extrême droite, c'est Gerhard Frey et son Deutsche Volksunion. Hein. Donc, l'Allemagne a une expérience avec des partis d'extrême droite et elle a déjà, à l'époque de l'ancienne RFA, avant l'unification, formulé quelques stratégies à l'encontre. C'est Franz Josef Strauß, le ministre-président de la Bavière, qui a formulé une phrase qui a dit « Il faut que le conservatisme allemand fasse en sorte à ce qu'il n'y ait pas de parti à la droite de la droite conservatrice. »
Oui, effectivement. Alors, mais néanmoins, on peut dire, Cécile Lecomte, que vous considérez en tant que politiste qu'il y a, disons, non seulement une force politique peut-être nouvelle, qui est celle de, effectivement, de l'AFD, mais aussi qu'elle a beaucoup plus d'ampleur que n'ont eu les précédents partis dont parlait Klaus-Peter Sick.
Absolument. Alors, Klaus-Peter Sick a raison de rappeler que c'est à la fois vrai et faux, cette question de la continuité. Moi, ce qui me paraît nouveau, c'est bien sûr d'abord l'ampleur électorale, hein, la portée de ce parti, puisque bon, il est, on l'a dit, représenté en fait au Bundestag, alors qu'auparavant l'extrême droite était cantonnée au niveau des Länder et du Parlement européen. Il est actuellement, en fait, on estime qu'actuellement en avril 2024, donc après les révélations concernant la réunion de Potsdam dont nous parlerons peut-être, eh bien, il est crédité de 18% des intentions de vote, 18%, donc ce qui le place en deuxième position derrière la CDU-CSU. Et puis, je dirais, mon collègue a bien fait de parler de Franz Josef Strauß, donc de la CDU, qui disait jusqu'alors « Rechts von mir ist die Wand ». C'est-à-dire, en tant que parti conservateur, on ne doit jamais laisser émerger à notre droite une force nationaliste qui nous ferait concurrence. Or là, elle fait clairement concurrence à la CSU, puisque désormais l'AFD n'est plus qu'un parti des anciens Länder de l'Est, comme on a aimé à le dire jusqu'à présent.
Il est présent sur tout le territoire.
Il est présent sur tout le territoire et il a fait d'excellents scores, par exemple un excellent score en Bavière en octobre 2023, avec 14,5% des voix. Et puis, je dirais aussi que la question se pose, pour une partie de la CDU, de la question du cordon sanitaire avec ce parti-là.
Ce sont des questions qu'on s'est posées sous Jacques Chirac en France, il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Faut-il faire alliance ou ne pas faire alliance ?
Absolument. Et là où Franz Josef Strauß avait quand même une ligne claire, c'est-à-dire quitte à se droitiser pour pas laisser la place à l'extrême droite, on a vu notamment au niveau de certains Länder comme la Thuringe, que la question d'une éventuelle coopération entre en tout cas une partie de la CDU et l'AFD se pose. Question qui se posera aussi au Parlement européen suite aux élections de juin.
Oui. Alors tout de même, il y a une question qu'on peut se poser, c'est de qui est composé Klaus-Peter Sick, ce nouveau parti, puisque je l'ai dit, il est né en 2013, donc il y a 11 ans, il est relativement neuf. Il est composé de qui ? Il est composé de professionnels de la politique, d'amateurs dans la politique, de professionnels qui viennent de la CDU-CSU, par exemple. Enfin, comment peut-on les qualifier ? Parce que effectivement, il est né plutôt sur la partie orientale de l'Allemagne, l'ancienne Allemagne de l'Est, mais il s'est répandu un peu partout maintenant sur le territoire, comme vient de le dire exactement à l'instant Cécile Lecomte. Qui compose l'AFD ?
Oui, alors il faut quand même le dire très nettement. Hein, ce parti-là n'est pas un parti est-allemand, mais aussi un parti ouest-allemand.
Oui, c'est ça.
Et il faut surtout quand on analyse les échelons supérieurs, les leaders à l'ouest et à l'est, on se rend compte que souvent ce sont des gens qui étaient actifs à l'extrême droite déjà avant la réunification, avant l'unification, ou qui formaient la frange, disons, conservatrice réactionnaire du parti du CDU, c'est-à-dire le parti de droite traditionnel de l'Allemagne. Or, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une nouvelle élite, ceux nés dans les années 70, 80, qui forment une nouvelle élite d'extrême droite. Et là, en Allemagne de l'Est, il y a des personnes comme, par exemple, les deux leaders actuels de la liste européenne de l'AFD, Maximilian Krah et Peter Bistrand, dont vous venez de parler. Hein. Ce sont vraiment on peut dire, c'est des intellectuels, ou en tout cas des gens des couches moyennes supérieures, très bien formés, souvent sachant très bien manier les médias et très bien parler, qui gère ce parti aujourd'hui.
Mais aussi avec peut-être cette dimension, c'est ce qu'on avait vu au tout départ, justement de la création de l'AFD, où il y avait eu cette dévalorisation des biographies, ce qu'on appelle la dévalorisation des biographies, c'est-à-dire des gens qui, d'une certaine manière, avaient une carrière avant la réunification, qui ont vu cette carrière, disons, chuter en partie et qui, par ressentiment peut-être aussi, vis-à-vis de cette chute de leur propre carrière, ont décidé de passer à d'autres moyens d'action.
C'est toujours moi Oui, alors là, je pense qu'on parle plutôt des électeurs. En effet, et des électeurs est-allemands, dans ce qu'on appelait autrefois les nouveaux Länder, les nouveaux États fédéraux de l'Allemagne.
Et pas simplement des populations ouvrières, mais aussi des populations intellectuelles, des classes moyennes.
Des classes moyennes, des ingénieurs, etc., dont les entreprises ont fait très rapidement faillite ou qui ont été achetées pour ensuite être abgewickelt, déroulées, comme on disait à l'époque, dans la première moitié des années 90, donc où beaucoup de gens aussi, des couches moyennes, éduqués, formés, étaient au chômage parfois longtemps. C'est vrai que ça a formé une bonne partie de l'électorat, et on s'est rendu compte du coup aussi que en Allemagne de l'Est, il y avait toujours une extrême droite qui a été cachée sous le sable du communisme officiel, mais qu'il y avait aussi des lignes de continuité directe.
Oui, alors et qui sont est-ce qu'il y a un corpus de pensée de l'AFD qu'on pourrait décrire, soit en comparaison avec ce qu'on connaît en France, soit simplement pour nous dire quel est ce corpus? Est-ce que vous pouvez nous dire cela, Cécile Lecomte? Les racines viennent d'où? Parce qu'évidemment, quand on pense extrême droite en Allemagne, on pense forcément à la période du nazisme, mais il y a peut-être d'autres racines qui sont présentes.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à la création de l'AFD, il y a différents milieux de politiques qui convergent. Il y a d'anciens notables de la CDU qui sont déçus du recentrage de ce parti, enfin ce qu'ils voient comme tel sous le leadership de Merkel. Je pense par exemple à l'un des cofondateurs, Alexander Gauland, qui vient de la CDU. Il y a des gens qui sont motivés principalement, plutôt vraiment, à l'extrême droite, qui sont ou même qui viennent du FDP, hein, qui sont motivés par l'hostilité envers l'Union européenne et en particulier l'euro. Je pense à Manfred Brunner, qui a été un politicien qui avait créé un parti anti-monnaie unique. Il y a des gens qui ont fait carrière avant dans le NPD, donc un parti qualifié par l'Office de protection de la Constitution d'extrémiste de droite. Donc, en fait, il y a divers milieux qui se retrouvent dans ce parti. Mais au départ, il faut rappeler que c'est plutôt un parti quand même de notables. D'ailleurs, l'un des cofondateurs était un professeur d'économie. On parlait de Professorenpartei, c'est-à-dire de parti des professeurs, quand il a été créé en 2013. Et donc, en fait, on avait en effet plutôt des gens diplômés et aussi des gens ultra-libéraux. Alors, en termes de corpus, je pense que c'est un parti qui est plus proche de Reconquête actuellement que du parti de Marine Le Pen, exactement, puisqu'il combine une position anti-immigration très claire, hostilité à la société multiculturelle, hostilité à l'islam. Conservatisme très net sur les questions de société. Ça, c'est une question, on peut en débattre, mais qui le distingue un petit peu du RN et qui le rapproche plus clairement de Reconquête. C'est un parti qui, jusqu'à récemment, était plutôt et reste plutôt ultra-libéral sur les questions économiques. Il y a des membres fondateurs de ce parti qui viennent de l'Institut Friedrich Hayek, donc ça veut tout dire.
Et donc, un grand penseur du libéralisme, en l'occurrence.
Exactement, tout à fait. Alors par ailleurs, il y a aussi effectivement en matière géopolitique des similitudes avec le RN, par exemple l'orientation pro-Kremlin très nette, même s'il y a eu des débats dans le parti. et une ligne actuellement pro-israélienne qui est essentiellement utilitariste et qui vise à faire oublier les propos antisémites de nombreux membres du parti qu'on essaye de faire taire en s'alignant sur ça.
Klaus Peterszig, est-ce que il y a des liens là aussi avec un mouvement dont on a parlé plus tôt, qui était le mouvement Pegida, qui se battait contre l'islam, et est-ce que il y a là une des racines ou un des rapprochements potentiels justement qui aurait été puisé, dans lequel on aurait été puisé quand on a créé l'AFD et quand ce mouvement s'est développé?
Absolument, ça c'est sûr. C'est un mouvement sociétal, si vous voulez, de grassroots, surtout en Allemagne de l'Est, qui forme tout à fait le vivier où puise aujourd'hui l'AFD, ça c'est clair. Et Cécile Laborde, le comte, a eu tout à fait raison d'insister sur la multiplicité intellectuelle, de ce parti, qui a vraiment eu une histoire de radicalisation entre ce que Cécile a appelé la Professorenpartei, à juste titre, du temps de Frau Kopetri et de Monsieur Lucke au début, et jusqu'au parti d'aujourd'hui, mais où on continue à trouver quand même des libéraux comme quelqu'un qui représente ce parti au Bundestag, Peter Böhringer, par exemple, qui est quelqu'un qui semble tout à fait intégré, disons, dans les commissions parlementaires du Bundestag, qui parle souvent dans le Deutschlandfunk, dans la radio publique allemande, et qui semble être quelqu'un de tout à fait respectable dans le style, mais dont, quand on regarde de près les idées, il y a quand même ces idées biologistes très difficiles qui vont loin dans qui puisent loin dans le passé de l'Allemagne.
Et cette question de la remigration, donc, qui était au cœur d'une réunion secrète à Potsdam, Cécile Lecomte, qui a fait beaucoup de bruit et qui a d'ailleurs poussé beaucoup d'Allemands dans des manifestations dans la rue, puisqu'il y avait un programme, enfin en tout cas c'est ce qui a été affirmé, une sorte de programme de remigration, c'est-à-dire de faire repartir dans leur pays, des Allemands qui n'y seraient pas assez intégrés en Allemagne. Est-ce que cela, ça vient de l'un ou de l'autre de ces débuts intellectuels de l'AFD ?
Oui, tout à fait. Ça vient plutôt des gens qui venaient du NPD, de l'extrême droite. Et en fait, ce qui a été un épisode, une séquence importante dans la radicalisation extrême droitière de ce parti, c'est l'épisode migratoire de 2015.
Bien entendu, avec le million de personnes qui arrivent en Allemagne.
Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que à cela s'ajoute, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, de l'attaque russe sur l'Ukraine, 1 million de réfugiés ukrainiens. Mmh. Alors on pourrait penser effectivement que oui, les réfugiés ukrainiens suscitent moins d'hostilité que les réfugiés du Moyen-Orient, chez les électeurs de l'AFD. Mais des sondages montrent que 49% des électeurs de l'AFD, contre seulement 12% par exemple des électeurs de la CDU, sont hostiles à la présence des réfugiés ukrainiens en Allemagne. Donc la problématique, la question migratoire s'est imposée sur l'agenda de façon très nette, surtout depuis 2015. Et puis de toute façon, effectivement, c'est ce que veulent les électeurs du parti. C'est vraiment un vote d'adhésion à cette orientation anti-immigration, puisque selon la FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, voilà, 70% des électeurs de l'AFD désignent la question migratoire comme principale, le refus de la migration des migrants comme principale raison de leur vote pour l'AFD. Donc, comme partout ailleurs en Europe, le vote pour ces partis reste aussi un vote d'adhésion à ce message anti-immigration.
Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des porosités, pourrait-on dire, entre pays. Alors, vous parliez tout à l'heure du parti de M. Zemmour en France, mais on pourrait citer les partis comme le FPO en Autriche avec... Parfois, on a l'impression d'une sorte de grande porosité avec des idées qui vont d'un côté et de l'autre de la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, Cécile Lecomte.
Tout à fait. Alors, les idées circulent dans beaucoup de sens. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'extrême droite allemande s'est inspirée des théoriciens, notamment français, de la nouvelle droite. Mmh. Et donc dans les revues de l'extrême droite allemande, on lit beaucoup les théoriciens de la nouvelle droite, puis les théoriciens identitaires. Et ces liens sont aussi venus des organisations comme le mouvement identitaire français, qui a été assez habile pour s'exporter dans les pays germanophones, en Autriche, en Allemagne. On a d'ailleurs vu que à la fameuse rencontre de Potsdam, il y avait des théoriciens, des jeunes théoriciens de ce mouvement identitaire autrichien qui étaient présents. Et je dirais que historiquement aussi, les relations entre les extrêmes droites allemandes et le FPÖ autrichien sont très fortes. Elles passent aussi par des réseaux d'interconnaissances qui relèvent aussi des fraternités étudiantes d'extrême droite, qui ont une longue histoire. Qui restent finalement dans leur esprit, j'imagine, pan-germaniste. Donc ce sont des points de passage entre le FPE et les partis d'extrême droite allemand, cela a toujours été.
Oui, Klaus Petersick.
Oui, je rebondis là-dessus, tout en insistant quand même sur cet événement. C'était vraiment un événement clé, cette rencontre de Potsdam récente de la Villa Adlon, où il y avait ce monsieur autrichien, comme vous le dites, Cécile Lecomte, ce théoricien, monsieur Söllner, qui est venu d'Autriche, mais où il y avait aussi justement des gens vraiment de l'extrême droite droitière, mais aussi des gens qui forment la frange droite du CDU, hein, des gens aussi qui représentent les classes moyennes, les entreprises. Donc c'était l'une de ces occasions qu'on a vues en Thuringe aussi, en 2020, où la droite classique, ou même la droite libérale, ne craint pas de prendre des contacts avec la droite la plus extrême et la droite même radicale et raciste. Or, cet événement clé dont ce magazine correctif a rendu compte, c'est une sorte de canard enchaîné à l'allemande, hein. C'était un événement clé aussi dans la mesure où il a créé un sursaut, hein, dans la société allemande, vraiment by and large, de l'ouest de Aix-la-Chapelle jusque dans la Saxe orientale, où des gens sont allés dans la rue pour manifester qu'ils ne sont pas d'accord, hein, avec ces plans de rémigration. Mon fils, par exemple, il disait si je compte qui devrait être renvoyé de mon école, il n'en resterait pas beaucoup, hein, de cette école du Berlin Prenzlauer Berg, très mixte. Et alors, je pense que c'était dans la rétrospective, ce moment de novembre et la réaction qu'il a suscité dans la société allemande était important, très important.
18h42 sur France Culture, vous écoutez les termes du débat européen de ce jour. Nous parlons de l'extrême droite en Allemagne, en compagnie, vous venez de l'entendre, de Klaus Petersick, historien à Berlin et chercheur associé au centre Marc Bloch, et de Cécile Lecomte, politiste, professeur d'université à Sciences Po Lille et chercheuse au CERAPS.
Tout d'abord, nous en avons déjà discuté en détail hier. En ce qui concerne l'affaire Bistron, il s'agit d'une opinion personnelle. Je voudrais dire quelque chose de fondamental à ce sujet, et je l'ai déjà dit hier, à savoir que nous ne tolérons pas qu'un député laisse sa position être influencée par l'argent. C'est déjà un premier point. Néanmoins, la présomption d'innocence s'applique également à Peter Bistron. Il s'agit de soupçons, d'allégations. Nous ne disposons actuellement d'aucune preuve. La présomption d'innocence s'applique donc. Et dans l'état actuel des choses, nous croyons davantage à la parole de Peter Bistron.
France Culture, les termes du débat européen, Emmanuel Laurentin.
Vous venez d'entendre Tino Chrupalla, qui est co-président de l'AFD, qui revenait devant le Parlement allemand mardi sur les soupçons envers Peter Bistron, donc membre éminent du parti de l'extrême droite allemand, puisqu'il est numéro 2 justement de la liste sur les européennes, soupçonné d'avoir accepté de l'argent pour diffuser la propagande du Kremlin depuis une radio pro-russe. Est-ce que cela, c'est important? Est-ce que cela nous dit quelque chose, justement, des positions de l'AFD? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Cécile Lecomte, des positions qui sont plutôt pro-poutiniennes.
Oui, tout à fait. Je pense qu'au-delà de cet épisode, alors on sait bien que le Kremlin finance ou indirectement, ça on le sait bien en France aussi, plusieurs partis d'extrême droite en Europe. Donc l'Allemagne n'est pas un cas unique, mais là, dans le cas de l'AFD, Même s'il y a eu quelques divisions au départ sur le positionnement par rapport à l'Ukraine, il est désormais, la guerre en Ukraine, il est désormais très clair que l'orientation pro-Kremlin de la AfD, elle est évidente. Alors, ça passe par des affinités idéologiques, notamment le conservatisme sociétal, mais aussi, je dirais, une forme d'anti-occidentalisme. Affirmé. Alors, ça peut étonner dans un pays comme l'Allemagne,
oui, bien sûr,
qui fait partie de ce qu'on appelle l'Occident. Mais je rappelle que au départ, dans le programme de l'AfD, il était rappelé que l'Allemagne est un membre de l'OTAN, qu'il y a un certain attachement à l'OTAN. Et maintenant, ça a complètement disparu du programme. Donc, je dirais qu'il y a cette forme d'anti-américanisme aussi typique d'une partie de l'extrême droite qui s'exprime dans cette orientation pro-Kremlin.
Oui, de votre côté, Klaus Petersik.
Oui, je pense l'image, la grande image est correcte, mais je dirais quand même qu'il y a un conflit à l'intérieur. Il subsiste ce conflit à l'intérieur de l'AfD sur l'orientation pro-russe ou pro-OTAN. Hein. Et je pense que c'est justement en ayant découvert ce clivage possible que les partis traditionnels allemands essaieront de progresser sur ce possible point de division à l'intérieur de l'AfD.
Ils n'ont que 2 mois d'ici les élections européennes, ça n'est pas beaucoup, mais effectivement, on voit bien que ça fait monter la tension, j'imagine, effectivement.
Oui, tout à fait. Oui. Cécile Lecomte a quand même raison de dire que, disons, l'orthodoxie de l'AfD penche plutôt maintenant envers une position, en tout cas, si c'est pas ouvertement pro-russe, en tout cas pas ouvertement pro-ukrainien. Ça c'est sûr.
Alors, pendant longtemps, et nous avons fait partie de ceux qui s'en faisaient l'écho, quand on parlait, par exemple, de l'Allemagne, on évoquait le rôle de la Cour constitutionnelle, on évoquait le patriotisme constitutionnel tel qu'il s'était mis en place et qu'il était vanté par Jürgen Habermas, c'est-à-dire une sorte de placidité, pourrait-on dire, fondée sur le droit, qui permettrait justement à l'Allemagne de sortir des fantômes du passé. Cécile Lecomte, est-ce que justement cette montée de l'AfD remet en cause cette construction idéologique qui était une construction extrêmement qui permettait justement à Angela Merkel et à tous ses prédécesseurs de dire que l'Allemagne était singulière dans cet espace européen?
Oui, tout à fait. Je pense, alors là aussi, c'est pas l'ensemble du parti, mais il y a quand même des figures éminentes du parti qui finalement, en général, je pense qu'on peut dire que c'est un parti qui met en cause la culture mémorielle de la République fédérale d'Allemagne, qui effectivement s'est construite dans finalement le comment dire le ben, bien sûr
le dans le rejet du nazisme,
passé nazi, tout à fait, la dénonciation des crimes du nazisme, même s'il y a des couches de la société qui n'ont pas au départ accepté la dénazification. Hein. On parlait à l'époque d'occidentalisation forcée des Allemands. Donc ça, c'est un vieux thème, hein, ce discours anti-occidental à l'extrême droite. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs têtes de pont de l'AfD, par exemple, qui ont qualifié la période nazie, je cite, de « chiure d'oiseau dans l'histoire allemande, une histoire allemande globalement glorieuse ». Donc, la plupart du temps, c'est exprimé sur un mode « Schlussstrich », c'est-à-dire, ok, on a assez parlé de tout ça maintenant, on retrouverait ça en France dans une certaine mesure avec ceux qui parlent de culture de la repentance par rapport au passé colonial de la France. Et là, c'est pareil, il y a cette idée que par exemple Björn Höcke, qui est l'un des représentants de l'aile la plus droitière de l'AfD, mais qui a une forte popularité dans les adhérents du parti, a dit qu'il faut un changement à 180 degrés sur la politique mémorielle de l'Allemagne.
Ah oui.
Il y a même des députés de l'AfD qui comparent, dans une stratégie d'inversion propre à l'extrême droite, qui comparent Merkel à Hitler, en disant finalement la République fédérale d'Allemagne, c'est une dictature, on peut pas dire ce qu'on pense, etc. Et là, je pense aussi qu'il y a des liens transatlantiques qui seraient intéressants à étudier, à observer. Parce que, par exemple, le groupe QAnon...
aux États-Unis.
Exactement, un groupe conspirationniste américain a fait des émules en Allemagne. Et il faut pas oublier que l'année dernière, il y a eu une tentative de prise d'assaut du Bundestag.
Qui a eu peu d'écho en France, d'ailleurs.
Mais oui, oui. Que finalement, curieusement, assez peu d'écho en France, parce que ça faisait écho à ce qui s'était passé aux États-Unis le 6 janvier 2021, ce qui s'est passé au Brésil. Je rappelle que ce qui s'est passé au Brésil, ça a été salué par Beatrix von Storch, l'une des députées de l'AFD, de quelque chose de positif. Hein, hein. Et donc, effectivement, l'année dernière, les services secrets allemands ont déjoué une tentative quasiment de coup d'État, en fait, puisqu'il s'agissait de prendre par la force le Bundestag.
Oui, et donc on peut dire aussi, Klaus Peterzig, qu'il y a une dimension anti-juridique d'une certaine manière, et en particulier contre la Constitution, la Cour constitutionnelle, qui a un discours un peu commun à ce qu'on peut entendre parfois aussi en disant on ne peut plus gouverner, le droit est trop important, et que là c'est la mise en cause aussi de cette pensée dont je disais qu'elle était incarnée par Jürgen Habermas pendant très longtemps.
Bon, alors c'est vrai que la place du droit avec un grand D dans la culture politique allemande est extrêmement, extrêmement forte.
Et d'ailleurs, depuis plusieurs siècles.
J'allais le dire, au plus tard depuis le 19e siècle. Le Rechtsstaat, l'état de droit, c'est un principe tout à fait fondamental au républicanisme allemand. Et justement, en réponse à ce qui s'est passé en 1932-1933, lors de la prise de pouvoir de Hitler, où on a vu que pour être bref, que le peuple peut parfois se tromper, hein, bien qu'il faut insister sur le fait que jamais une majorité d'Allemands a voté, même en 1932-1933, pour le Parti national-socialiste NSDAP. Hein.
Et que les juristes eux-mêmes peuvent se tromper, puisqu'ils ont été nombreux aussi à rejoindre le camp nazi dans ces années-là.
Absolument, oui, vous pensez à Carl Schmitt et autres, et d'autres, bien célèbres exemples. Oui, alors dans ce que Cécile a dit, j'ai trouvé intéressant qu'elle considère le parti AfD comme un parti qui veut en finir avec le culte, avec ce qu'on appelle en allemand le Schuldkult, le culte de la culpabilité allemande. Ce centrage de la mémoire, du discours mémoriel allemand sur les 12 années fatidiques. Il y a par exemple quelqu'un comme Alexander Gauland qui représente vraiment très bien une aile droitière réactionnaire qui l'a représenté du CDU, qui est devenu l'un des grands du AfD, hein, mais où on voit que ce discours-là de la relativisation ou du centrage considéré comme excessif de l'Allemagne sur l'apprentissage du Troisième Reich, il est assez populaire.
Avec une dimension antisémite aussi, j'imagine.
Toujours, ou pour la plupart des cas. Hein,
même si elle ne se dit pas tout le temps, il y a toujours cette dimension-là qui est toujours présente.
Oui, il y a un super ego très fort, toujours et encore, en Allemagne, quant à l'antisémitisme. Mais vous savez que depuis le 7 octobre, ça fait 6 mois maintenant, la guerre de Gaza, qu'il y a une flambée incroyable de l'antisémitisme. Les chiffres ont quadruplé. Bien que le mois de mars, je l'ai lu sur l'hebdomadaire juif de la communauté juive au ciel en Allemagne récemment. Maintenant, les chiffres sont en train de rechuter.
Est-ce que ce n'est pas du côté de l'ancienne extrême gauche qu'il faudrait que l'AFD regarde pour voir peut-être ses ennemis futurs en la personne de Sarah Wagenknecht, pardon, excusez-moi, je prononce mal son nom, du côté de celle qui vient de Die Linke, donc le parti le plus à gauche en Allemagne et en particulier qui a été très implanté en Allemagne de l'Est et qui tient aujourd'hui un discours anti-immigration qui pourrait contester la supériorité momentanée de l'AFD, Cécile Lecomte.
Oui, tout à fait. Alors, le phénomène Wagenknecht est assez intéressant. Elle a effectivement fait sécession de Die Linke, qui aurait pu être le compétiteur direct de l'AFD dans les Länder orientaux. Et finalement, elle connaît une évolution, comme, je dirais, connaissent aussi certains partis sociaux-démocrates en Europe. Je pense au parti social-démocrate danois, par exemple. C'est-à-dire, il s'agit de combiner une orientation en matière de politique économique assez à gauche, hein, qui protège les plus faibles, qui défend l'État-providence, Et puis, finalement, très droitière sur les questions migratoires et de citoyenneté. Ça fait écho quand même à un débat au sein de l'AFD, parce que au sein de l'AFD, mon collègue a dit très justement qu'ils sont pas toujours comme tout parti unis sur tout. Il y a une partie de l'AFD, notamment autour de Björn Höcke, qui demande de se gauchiser un petit peu sur les questions économiques. Pour devenir vraiment le Arbeiterpartei, hein, pour parler aux ouvriers, voilà, pour devenir le parti des travailleurs. Mais comme j'ai dit, il y a aussi dans ce parti une majorité de personnes qui sont plutôt sur une ligne ultra-libérale en matière économique. Donc, Wagner-Knecht ici, elle appuie peut-être aussi sur des divisions internes à l'AFD.
À l'AFD. Et sur ce point, Klaus Petersik.
Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu, depuis que j'observe, là, je commence à connaître un peu la France, il y a toujours une place libre, vide, dans le paysage politique allemand, c'est la place de Jean-Pierre Chevènement. Hein. Ça n'existait pas. Disons, une social-démocratie nationale, un socialisme national, c'est par l'expression même qu'il a été dévalorisé avant, en tout cas à l'époque où j'ai fait mon apprentissage politique, à l'époque de l'ancienne RFA, des années 80, 90, c'était impossible. Hein.
Une aile de la gauche qui se voulait à la fois, enfin qui était d'ailleurs socialiste, et qui était très ferme sur les questions de tout ce qui est la sécurité, l'armée, etc., etc.
Exactement. Oui, ça n'existait quasiment pas, je dirais. C'était une place vide, et c'est Sarah Wagenknecht aujourd'hui qui essaie de l'occuper, et avec du succès.
On lui donne quoi dans les sondages pour l'instant?
On lui donne, c'est incroyable, quand vous regardez les chiffres prévus à l'instant pour les élections régionales du Land de Thuringe, le 1er septembre, vous allez voir que l'AFD, c'est le premier parti, et le BSW, le Bündnis Sarah Wagenknecht, le second parti. Donc nous avons maintenant dans un Land comme ça, deux partis anti-système, tandis que les vieux partis
SPD
ou FDP doivent craindre qu'ils chutent en dessous même de la barre des 5%, comme c'est le cas dans le Land de Saxe, à côté de la Thuringe, où les vieux partis, entre guillemets, sauf le CDU, on doit déjà désormais avoir peur de descendre sous la barre des 5%.
Oui,
c'est incroyable.
Cécile Lecomte, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par Klaus Petersik à propos justement de cette montée du parti de l'ancienne leader de Die Linke?
Tout à fait. Et je rajouterai un élément, c'est que l'AFD se trouve actuellement dans la situation dans laquelle se trouvait le Rassemblement National le Front National avant l'arrivée
de Marine Le Pen.
C'est-à-dire que il me semble que deux tiers des électeurs ou plus des électeurs de l'AFD sont des hommes. Les femmes sont très sous-représentées parmi l'électorat de l'AFD, ce que, en fait, en Sciences Po, on appelle souvent le gender gap dans le vote pour les partis d'extrême droite. Souvent, pour ces partis, le problème, c'était aussi de capter l'électorat féminin. Et donc là, d'avoir effectivement une femme qui défend des valeurs de welfare, etc., de préserver l'État-providence, mais qui associe ça, comme a très bien dit mon collègue, avec une ligne souverainiste et anti-immigration, ça peut aussi peut-être permettre à Wagenknecht de récupérer le vote de femmes qui ne votent pas pour l'AFD, mais partagent l'orientation anti-immigration, souverainiste, etc.
Merci beaucoup à tous les deux donc d'être venus débattre et discuter à distance. Donc vous depuis l'Allemagne, Klaus Petersik, je rappelle que vous êtes historien à Berlin et chercheur associé au Centre Marc Bloch. Et vous, Cécile Lecomte, depuis Lille, c'était nos collègues de France Bleu Nord qui vous ont accueilli dans le studio à Lille. Et nous remercions en particulier Patrick Fournol. Donc vous êtes politiste, professeur des universités à Sciences Po Lille et chercheuse au CERAPS. Le temps du débat a été préparé ce soir par Anouk Sévenot, Roxane Poulain, Fanny Richer, Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique à Paris, Anthony Thomasson.